Allez, on y va. Bonjour à tous, merci d'être là. Nous, on est là au Novotel Avignon Centre pour un moment, hein, jusqu'à la fin du mois de juillet, pour le festival, puisque nous sommes la web radio du off. J'adore avec l'accent, c'est super bien. Et là, je vous présente un monsieur que je vais me faire tout petit à côté de lui, parce que c'est une montagne de connaissances, je crois. Julien Joubert, bonjour.
Bonjour, non, vous me faites beaucoup d'honneur, là.
Bah, je vous flatte un peu, parce qu'après, tac.
Ah oui, d'accord, alors je m'attends au pire.
Je plaisante.
Allons-y.
Non, je dis, vous êtes une montagne de connaissances, parce que vous êtes un passionné de musique, et vous partagez ça merveilleusement bien.
Oui, non, ça c'est sûr que je suis passionné de musique. Mon vrai métier au départ, c'est compositeur. Donc j'écris de la musique qu'on appelle classique ou de la musique savante, disons.
Oui.
Et j'écris pour que le maximum de gens se sentent concernés. Et donc, en effet, depuis 2 ans maintenant, j'essaye de transmettre aussi cet amour pour la musique dite classique ou en tout cas la musique dite travaillée à travers des one-man shows comiques.
D'accord.
Vraiment comique.
Il y avait un monsieur, c'était sur France Musique, non, monsieur Nickelodeon, enfin quelque chose comme ça.
L'Odéon ?
L'Odéon,
ouais, c'est Frédéric L'Odéon, bien sûr.
Il est passionnant parce que justement, il nous fait rentrer dans la musique.
Oui, il a toujours une anecdote, toujours un prisme un peu étonnant pour rentrer dans la vie des compositeurs.
Ouais, donc c'est pour dire, chers auditeurs, que quand on entre dans la musique, des fois, on reste fasciné par l'histoire. Et donc, vous nous proposez justement une histoire de la musique. En 80 minutes, c'est un one-man show, c'est du 5 au 26 juillet, c'est à l'Oriflamme, à Avignon.
C'est
pas un petit peu prétentieux, une histoire de la musique, parce que...
ça pourrait paraître prétentieux, alors. Je mets l'article indéfini, je mets quand même une histoire de la musique pour montrer que ça va être un peu subjectif, on est obligé de faire des choix. Alors, vu que c'est Avignon, c'est 70 minutes, c'est-à-dire que le titre original, c'est 80 minutes, puis là, c'est une version en 70 minutes, c'est encore plus difficile de tenir dans le
90
timing.
Minutes, dont 10 d'installation.
Oui, gros, c'est peut-être ça.
Alors, cette histoire de la musique, déjà, est-ce qu'on remonte très loin au début de l'histoire ?
Ouais, alors j'ai une petite thèse que j'essaye de démontrer dans ce spectacle, c'est que la musique a même précédé l'homme. Ça veut dire que je remonte même, par une petite parenthèse, à 2 millions d'années. Alors après, j'ai bien conscience qu'il faut aller un peu vite pour arriver à nos jours. Hein.
Est-ce qu'on peut considérer que le paf du Big Bang, c'est de la musique ?
Alors là, je vais peut-être pas jusque-là. Voilà. 2 millions d'années, on est quand même loin derrière le Big Bang, mais... Oui. C'est-à-dire que, je ne vais pas développer ici mon idée, mais en gros, l'être humain naît immature. C'est-à-dire que quand le bébé naît, il a besoin des autres pour réussir à exister. Contrairement au bébé girafon qui se débrouille assez vite tout seul, il sait marcher, etc. Nous, pas du tout. Et en fait, il a appris in utero quelques principes. Il sait reconnaître des différences d'intensité, des différences de rythme, des différences de hauteur, des variations de... Et tout ça, c'est finalement, c'est les paramètres de la musique.
Même l'intonation, il sait.
Et l'intonation. Voilà. Et donc, finalement, le bébé humain, il naît avec une conscience musicale. C'est quand même preuve que la musique l'a précédé.
Et qu'elle est en nous, peut-être.
Mais bien sûr.
Alors, j'ai une question, parce que si on remonte loin, est-ce qu'on va chez les hommes préhistoriques?
Oui, alors
Néandertal.
Il y a un truc assez incroyable chez les hommes préhistoriques, dans les grottes comme Chauvet ou Lascaux, etc., c'est qu'il y a des taches ocres dont on ne connaît pas la signification. Et il se trouve qu'à cet endroit-là, ça sonne particulièrement bien. C'est-à-dire que c'est l'endroit où le son résonne le mieux. Alors, je pars de cette donnée historique et je fais quelques hypothèses sur la musique préhistorique. Alors, évidemment, comme vous le disiez hors antenne, il n'y a pas d'enregistrement.
Bah oui, j'aurais bien aimé avoir un enregistrement du Néandertal. Mais en tous les cas, on peut remarquer que chez nous tous, dès l'enfance, c'est un peu inné de taper sur un truc. De faire du rythme, de faire de la musique.
On ne se rend pas compte à quel point toute cette histoire de la musique, elle nous nourrit. On est nourri de tout ça. Et aujourd'hui, la musique qu'on appelle de variété, la chanson, elle reprend exactement les mêmes règles de composition musicale qu'on avait à la fin du XVIIIe siècle avec Haydn ou Mozart, bien sûr. Et donc, je trouve que ça assez intéressant de décrypter un peu toutes ces données et de se rendre compte qu'on a plein de choses en commun. Et il y a beaucoup de gens qui me diraient « Oh là là, moi, la musique classique, j'ai un peu de mal » ou « Je ne comprends pas » ou « Je ne fais pas la différence entre Jean-Sébastien Bach et Johannes Brahms ». Normalement, à la fin de ce spectacle-là, tout en rigolant, on s'est rendu compte que, bah oui, il y avait une vraie évolution et des grandes différences entre les styles.
Évidemment, oui. Mais on n'aborde pas que la musique classique.
Non,
je passe
beaucoup, je donne beaucoup d'exemples sur la chanson, la chansonnette.
Oui, je crois que vous aimez des chansons, d'ailleurs. La variété, même, vous aimez.
Moi, j'aime beaucoup la variété, mais c'est un peu à la manière de ceux qui aiment les grandes tables, vous voyez, les grands restos, et puis qui, de temps en temps, quand on ouvre un paquet de bonbons Haribo, peuvent pas s'empêcher de taper dedans. Bon, bah, moi, je sais bien. bien pareil. Que la variété, c'est un peu comme des bonbons Haribo, mais c'est pas forcément bon pour ma santé, ouais. On va dire.
Ah bon
pour Mais en fait, non. Mais quel plaisir.
La musique adoucit les mœurs.
Moi, ouais, j'espère.
Oui, bah oui. Bon, en tous les cas, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit.
Oui, tout à fait. Je suis né dans une famille de musiciens. Mmh. Mes parents sont musiciens et aujourd'hui, ma femme est musicienne. Elle est chef de chœur. Mon frère est chef d'orchestre. Ma belle-sœur est musicienne. Mes enfants sont musiciens. Enfin, je suis entouré de musiciens. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de complètement quotidien. Et il suffit de sortir pour se rendre compte que, ah tiens, il y a des gens qui n'ont pas cette conscience qu'ils sont eux aussi musiciens. Et c'est ce que je défends dans l'autre spectacle. C'est aussi,
on va en parler dans
Tout le monde
secondes,
écrit des chansons. Ouais. Je prétends que non seulement nous sommes tous musiciens, mais que nous sommes même tous compositeurs.
Elle est célèbre, celle-là, qui ne la connaît pas. Non, c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça qui
non,
sont...
Non, mais bien sûr, bien sûr.
C'est pour la vie, hein, pour les siècles et les siècles. L'Oriflamme, c'est le matin à 10h, si vous voulez, grandir un petit peu, découvrir des choses fascinantes, parce que c'est quand même fascinant.
Si on veut s'amuser en apprenant des trucs, voilà. Parce que je fais vraiment pas mal d'andouilles et je pense beaucoup que le rire est un vecteur de communication parfait pour apprendre des choses.
D'accord. Il tape sur des bambous, c'était dans les années 80 aussi.
Ah, ça, certainement. Oui. Philippe Laville, je dirais,
oui, c'est ça. Ah oui, parce que après, tout le monde écrit des chansons. C'est votre deuxième spectacle. Là, il est 16h et on est au coin de la Lune.
C'est ça. J'ai eu la grande chance de rencontrer Stéphane Baquet qui gère la programmation de tous les théâtres de la Luna. Mmh. Et on a beaucoup échangé sur la musique et sur mon désir justement de transmettre cette pratique musicale. Et ma pratique à moi, elle est un peu particulière. C'est donc de composer. Composer, c'est un mot magnifique. Hein. Ça vient de cum qui veut dire avec et ponere qui veut dire poser. Et je prétends qu'on compose de la musique comme on pourrait composer un bouquet. Un fleuriste qui compose un bouquet, il n'invente pas les fleurs. Il n'a pas la prétention d'inventer les fleurs. Il prend des fleurs qui existent et il fait le plus beau bouquet en composant quelque chose de nouveau finalement, avec de l'ancien. Et ben moi je prétends que tout le monde peut composer une chanson à partir d'un motif pas forcément original. On peut faire une chanson originale.
Par exemple les bruits qu'on entend en cuisine là-bas avec un... Avec un chariot, on peut dire, tiens,
je sais pas
si
vous connaissez
ça,
les spectacles comme Stomp. C'est un spectacle de percussion qui est absolument incroyable. Ils prennent des objets du quotidien, ils en font une partition fabuleuse. Donc on peut composer.
En plus,
non,
ça accroche,
non seulement tout le monde compose, mais en plus avec n'importe quel motif.
Tout le monde, il est compositeur. Alors,
c'est pas
l'impression qu'on a quand même, parce que c'est vrai qu'on fredonne tous. Justement, des tubes des années 80 ou des choses qui nous ont marqué. Mais créer une chanson.
C'est le pari que je fais, et à chaque représentation avec le public, à la fin, donc je donne des principes de composition, je m'appuie sur les grands maîtres, hein, Bach, Mozart, Beethoven, puis aussi des chansonniers de talent comme Charles Trenet, François Hardy, Patrick Bruel ou
Maître
ou
Gims.
Alors Maître Gims, je connais un peu moins, mais je vois très bien ce que c'est. Et puis il a une sacrée voix quand même, Maître Gims.
Oui, il a une très bonne voix.
Et à la fin, le public écrit, à partir d'un texte que je propose, une chanson, mais en conscience. Et alors des fois même, le public s'invective, on dit « Mais non, c'est pas possible, il y a le principe numéro 2, on peut pas faire ça. Mais non, on fait ci, on fait ça, avec ça. » Et à la fin, ça donne une chanson que tout le monde fredonne en sortant.
Une chanson avec le public.
C'est vraiment le public qui compose.
Ah oui, donc tout le monde écrit, mais tout le monde dans le public écrit une chanson. Et c'est jamais la même, j'imagine.
C'est jamais la même. Des fois, les gens, tout le monde écrit des chansons. Je suis déjà venu l'an dernier au festival, et des fois dans la rue, parce que je m'amuse à tracter avec, j'ai un piano et je m'amuse à créer des chansons avec les gens que je rencontre dans les rues. Et je voyais des gens qui me rechantaient la chanson d'il y a 2 ou 3 jours, mais moi je l'avais oublié, puisque entre-temps j'en avais fait 2 nouvelles avec des salles différentes. Et eux par contre, c'était devenu leur tube de l'été.
C'est génial.
Ça, j'adore.
C'est génial.
Je suis ravi de ça.
Comment est-ce que vous faites pour faire composer une chanson à un public de, 100 personnes, 80 personnes?
En fait, alors c'est...
Ah, c'est de l'orchestration, remarquez, c'est du chef d'orchestre.
Oui, alors j'avoue qu'il y a peut-être un peu de... d'organisation sur le fait j'organise les choses. C'est-à-dire que de temps en temps, je parle de chansons tellement connues que le public ne peut pas s'empêcher de fredonner. Alors une fois que le public a commencé à fredonner, je tire sur la corde. Je fais « Ah oui, et alors si on faisait autrement ?» Et alors là, il y a une invention qui commence. Et puis là, je chope le motif inventé par l'un ou l'une. Et puis on tisse la toile comme on tire un fil, quoi, et on se rend compte que ah là là, mais c'est nous qui avons fait ça.
C'est passionnant, c'est génial. On ressort, on n'est pas les mêmes en fait là. On est des compositeurs.
En tout cas, moi, je sais que grâce à tout ça, moi, je grandis de jour en jour en jouant ce spectacle.
Ah oui, c'est génial. On en parlait un petit peu en antenne, mais ce qui est aussi très, très étonnant dans la musique et les chansons, c'est qu'on a beau en faire depuis des siècles, on en trouve toujours des nouvelles.
Oui, bah, je suis persuadé.
C'est impressionnant quand même.
On est capable de jamais se répéter. Alors évidemment, on peut tomber ici ou là sur des questions de plagiat. C'est très compliqué ces questions-là.
Aussi,
ouais. C'est très compliqué parce que parfois, vous voyez, par exemple, une pub bien connue pour des surgelés, c'est ta da ta 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 ta. Bon, ça, c'est une gamme de do majeur. Donc, si chaque compositeur qui écrit une gamme de do majeur, on dit « Ah oui, t'as repris la pub Findus », c'est peut-être un peu beaucoup. Donc, en fait, c'est pas forcément du plagiat. C'est le même motif.
D'accord. Mais... Bah, souvent, à la guitare, on trouve qu'il y a les mêmes accords aussi, des fois.
Oui, alors, c'est une question des cordes aussi. C'est-à-dire que, finalement, les cordes, l'accord de sol majeur à la guitare, il est tellement plus simple qu'il y a beaucoup de chansons qui sont soit en sol majeur, soit en mi mineur, qui est un accord facile aussi. Et alors, on a l'impression, comme ça. Bon. Dès que le guitariste devient un tout petit peu fort, c'est plus du tout le même jeu. Hein,
évidemment. Bah écoutez, je suis nul en musique, mais là, vous êtes en train de me passionner. Je pense que dans vos spectacles...
C'est gentil.
Ah bah oui, c'est...
N'hésitez je pas peux à venir, encore, je serais ravi de vous y croiser.
Je peux encore parler deux heures avec vous, là, si je voulais. Non, mais je pense que ça peut être très sympa de découvrir la musique à travers votre regard, vos spectacles
écoutez,
également.
En tout cas, moi, j'ai un plaisir immense à jouer, que ce soit une histoire de la musique à l'Oriflamme ou bien tout le monde écrit des chansons au coin de la Lune. Je suis
vous êtes
le
passionné.
Compositeur le plus heureux du monde, je crois, pour l'instant.
Pam, 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 pam. Alors, ce que je voulais dire, une histoire de la musique, est-ce que ça a la forme, c'est celui de 10h du matin hein, à l'Oriflamme, est-ce que ça a la forme d'une conférence, finalement ?
Je m'inspire des conférences, mais ça dérape assez vite.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai plusieurs chapitres, hein. il y a la préhistoire, l'antiquité, le médiéval, la renaissance, la musique baroque, la musique classique, la musique romantique, le XXe siècle, et puis on s'interroge sur demain.
La techno.
Et à chaque fois, le public a bien conscience quand tout d'un coup je dérape, et que par exemple, à un moment je prétends que l'homme préhistorique a inventé le blues, je pense que personne n'est dupe, c'est vraiment une bêtise.
Ah oui ? L'homme préhistorique ?
Ouais, je dis ça, enfin, c'est-à-dire que je commence à faire de la musique que j'appelle préhistorique, puis d'un coup ça part en blues. Bon, on est bien conscient que... Voilà.
On parle aussi d'un croisement, non ? D'un rond-point où le diable nous attend dans le
bout.
Ah oui, c'est un petit peu ça aussi, il y a un truc dans le genre. Écoutez, Julien Joubert, je vais arrêter cette discussion, mais on pourrait durer des heures. Mais rendez-vous donc à 10h le matin à l'Oriflamme pour une histoire de la musique en 80 minutes. Alors là, on crée même sa chanson, non ? Non, c'est pas ça.
Là on n'écrit pas sa chanson, mais non. Je prends pas mal d'exemples sur tout le répertoire de notre histoire.
Voilà, et on remonte très très loin, 2 millions d'années si ma mémoire est bonne. Et à 16h10, on a Tout le monde écrit des chansons. C'est un one-man show musical, là, cette fois. Et c'est au coin de la Lune.
Et c'est là où on repart avec sa propre chanson.
Qu'on garde dans la tête tout le festival.
Normalement.
Du coup, on apprend à créer un tube.
J'espère.
Julien Joubert, merci beaucoup.
Merci à vous, merci mille fois.